Chapitre 9. Et je t'assure, je suis bien désolé de revenir encore une fois sur ça. Il faudrait quand même que tu sois vraiment sûr. Parfois, on prend des décisions sur le coup de la colère, de la déception ou du chagrin. Il arrive que nos émotions nous dépassent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas comment on pourrait faire maintenant, mais encore, ça, on trouverait ce qu'on fait dans un sens. On doit pouvoir le refaire dans l'autre. Je ne veux pas t'influencer, mais je te le demande, pense à tes parents. Je suis certain, s'ils te retrouvaient comme tu es, qu'ils t'aimeraient tout autant qu'avant, si ce n'est plus. Ton père doit être un homme bien brave et bien dévoué. Imagine la joie que ce serait pour lui de te savoir vivant. Je ne veux pas t'influencer. De toutes les manières, ça sera comme tu l'entends. Ce sont toutefois des choses qu'il faut peser finement, à mon avis. Tu m'as dessiné ta sœur, Madeleine. C'est une agréable jeune fille. Pense un peu à la peine qu'elle a eue d'apprendre ta mort et quel miracle ce serait pour elle aujourd'hui. Il ne servait à rien d'écrire ça. On ne savait même pas quand les lettres arrivaient. Elles pouvaient mettre 2 semaines ou bien 4. Et les dés étaient jetés. Albert n'écrivait ces choses que pour lui. Il ne regrettait pas d'avoir aidé Édouard à changer d'identité. Mais s'il n'allait pas jusqu'au bout, il ne parvenait pas à imaginer concrètement les conséquences qu'il devinait assez sombres. Il se coucha par terre, roulé dans sa vareuse. Il se tourna et se retourna une grande partie de la nuit, nerveux, inquiet. Dans ses rêves, on déterrait un corps et Madeleine Péricourt voyait tout de suite que ce n'était pas celui de son frère. Il était trop grand ou trop petit. Parfois, il avait un visage qu'on reconnaissait immédiatement, celui d'un très vieux soldat. Parfois même, on déterrait un homme avec une tête de cheval mort. La jeune fille lui prenait le bras et demandait « Qu'est-ce que vous avez fait de mon frère ?» Le capitaine d'Olneprad en rajoutait, évidemment. Ses yeux étaient d'un bleu tellement vif qu'ils éclairaient le visage d'Albert comme une torche. Sa voix était celle du général Morieux. « C'est vrai, ça » tenait-il. Qu'est-ce que vous en avez fait, ce frère, soldat maillard ? C'est sur un cauchemar comme celui-ci qu'il se réveilla aux premières lueurs de l'aube. Alors que tout le camp, ou presque, dormait encore, Albert remua ses pensées qui, avec l'obscurité de la grande salle, la lourde respiration des camarades et la pluie qui battait sur le toit, devinrent de minute en minute de plus en plus noires, cafardeuses, menaçantes. Ce qu'il avait fait jusqu'à présent, il ne le regrettait pas, mais il était incapable d'aller plus loin. La vision de cette jeune fille froissant dans ses petites mains cette lettre tissée de mensonges lui revenait sans cesse à l'esprit. Était-ce bien humain ce qu'il faisait là? Mais était-il encore possible de tout annuler? Il y avait autant de raisons de faire que de défaire. Car enfin, se disait-il, je ne vais pas aller maintenant déterrer des cadavres pour couvrir un mensonge commis par bonté d'âme, ou par faiblesse, c'est la même chose. Si je ne vais pas le déterrer, si je dévoile toute l'affaire, me v'là accusé. Il ne savait pas ce qu'il risquait, seulement que c'était grave. Tout prenait des proportions effrayantes. Lorsque le jour se leva enfin, il n'avait toujours rien décidé, remettant sans cesse à plus tard le moment de trancher ce terrible dilemme. C'est un coup de pied dans les côtes qui le réveilla. Frappé de stupeur, il s'assit précipitamment. Toute la salle bruissait déjà de cris, de trépidation. Albert regardait autour de lui, totalement perdu, incapable de reprendre ses esprits, lorsqu'il vit soudain descendre du ciel et se planter à quelques centimètres de son visage, celui sévère et pénétrant du capitaine Pradel. L'officier le fixa longuement, puis il poussa un soupir de découragement et lui colla une gifle. Albert instinctivement se protégea. Pradel sourit, sourire large, qui ne disait rien qui vaille. « Alors, soldat Maillard, on en apprend de belles. Votre camarade Édouard Péricourt est mort. Ben, vous savez que ça a été un choc, parce que la dernière fois que je l'ai vu, il fronça les sourcils comme s'il puisait loin dans ses souvenirs. « Ma foi, c'était à l'hôpital militaire où il venait d'être rapatrié. Eh bien, à ce moment-là, Il était tout ce qu'il y a de plus vivant. Bon, il n'avait pas sa mine des grands jours. Pour être franc, je lui ai trouvé les traits un peu tirés. Il a voulu arrêter un obus avec les dents, c'est imprudent, hein. Il m'aurait demandé conseil. Enfin, de là à imaginer qu'il allait mourir, non, je vous assure, soldat Maillard, ça m'est pas venu à l'esprit. Cependant, pas de doute, il est bel et bien mort. Vous avez même rédigé une lettre personnelle à la famille pour l'informer. Et quel style, soldat Maillard, c'est beau comme l'antique. Quand il prononçait le nom de Maillard, il gardait cette manière déplaisante d'appuyer sur la dernière syllabe, ce qui lui donnait une tonalité dérisoire et surtout méprisante. Maillard semblait le synonyme de merde de chien ou quelque chose d'approchant. Il se mit à parler bas, à chuchoter presque, comme un homme furieux qui tâche de se contenir. Je ne sais pas ce qu'est devenu le soldat Péricourt, et je ne veux pas le savoir. Mais le général Morieux me charge d'aider sa famille. Alors forcément, je me demande. La phrase ressemblait vaguement à une question. Jusqu'à présent, Albert n'avait pas eu le droit à la parole et visiblement, le capitaine Pradel n'avait pas l'intention de la lui laisser. « Il n'y a que deux solutions, soldat Maillard. On dit la vérité ou on solde l'affaire. Si on dit la vérité, vous êtes dans de sales draps. Usurpation d'identité, je ne sais pas comment vous vous y êtes pris. » Mais vous êtes bon pour la tôle, je vous garantis 15 ans minimum. D'un autre côté, vous allez remettre le couvert avec votre histoire de commission d'enquête sur la côte 113. Bref, pour vous comme pour moi, c'est la plus mauvaise solution. Reste l'autre. On nous réclame un soldat mort, on donne un soldat mort, terminé. Je vous écoute. Albert en était encore à digérer les premières phrases. Je sais pas, dit-il. Dans ce genre de situation, Madame Maillard explosait. Ça, c'est du Albert tout craché. Quand il faut prendre une décision, montrer qu'on est un homme, plus personne. Je sais pas, il faut voir, peut-être que oui, je vais demander, allons Albert, décide-toi, si tu crois que dans la vie, etc., etc. Le capitaine Pradel avait des côtés de Madame Maillard, mais il tranchait plus vite qu'elle. Je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous allez vous remuer le cul. Et ce soir, vous allez remettre à Mademoiselle Péricourt un beau cadavre estampillé, Édouard Péricourt. Vous me suivez? C'est une journée de boulot et vous repartez tranquille. Mais réfléchissez vite. Si vous préférez la tôle, je suis votre homme. Albert se renseigna auprès de camarades. On lui indiqua plusieurs cimetières de campagne. Il vérifia ainsi ce qu'il savait. Le plus grand de tous se trouvait à Pierreval, à 6 kilomètres d'ici. C'est là qu'il y aurait le plus de choix. Il y alla à pied. C'était en bordure d'un bois, avec des dizaines de tombes dans tous les coins. Au début, on avait essayé de les aligner, mais ensuite, la guerre avait dû alimenter le cimetière de tellement de corps qu'on les avait placés dans l'ordre où ils arrivaient, à la va comme je te pousse. Des tombes dans tous les sens, certaines avec des croix, d'autres pas, ou des croix écroulées. Ici un nom. Là, un soldat, gravé au couteau sur une plaque de bois. Il y en avait des dizaines, avec juste un soldat. Et d'autres, avec des bouteilles renversées plantées dans la terre, dans lesquelles on avait glissé un papier avec le nom du soldat, pour plus tard, pour le cas où quelqu'un voudrait savoir qui était là-dessous. Dans le cimetière de Pierreval, Albert aurait pu rester des heures à marcher entre les tombes de fortune avant d'en choisir une, ça sempiternait l'hésitation, mais la raison avait fini par l'emporter. On verra bien, s'était-il dit, il commence à être tard et il y a du chemin pour revenir au centre de démobilisation, faut que je me décide. Il tourne la tête, en vit une dont la croix n'indiquait rien et il dit « celle-là ». Il avait retiré quelques petites pointes d'une planche arrachée à la barrière, il chercha une pierre, cloua la demi-plaque d'identité d'Édouard Péricourt, repéra l'endroit, recula de quelques pas pour regarder l'effet d'ensemble comme un photographe un jour de mariage. Puis, il s'en retourna, torturé de peur, de mauvaise conscience, parce que, même pour un bon motif, le mensonge n'était pas dans sa nature. Il pensait à cette jeune fille, à Édouard, et aussi à ce soldat inconnu que le hasard venait de désigner pour incarner Édouard, et que maintenant, plus personne ne retrouverait jamais, un soldat jusqu'alors non identifié, disparu pour de bon. À mesure qu'il s'éloignait du cimetière et se rapprochait du centre, les risques, à court terme, lui apparaissaient et se succédaient dans son esprit à la manière de ces dominos dont le premier fait chuter tous les autres. « Tout cela irait très bien, se disait Albert, s'il s'agissait seulement de se recueillir. Bon, la sœur a besoin de la tombe de son frère, je lui donne une tombe, celle de son frère ou d'un autre, peu importe, c'est le cœur qui compte. Mais maintenant qu'on va creuser, l'affaire devient plus compliquée. Quand on va chercher au fond d'un trou, allez savoir ce qu'on découvre. Pas d'identité, passe encore, un soldat mort, c'est un soldat mort. Quand on le déterre, qu'est-ce qu'on trouve ? Un objet personnel, un signe distinctif, ou même, plus simplement, un corps trop grand ou trop petit. Sauf que le choix était fait, il avait dit « celle-ci », et l'affaire était scellée, bonne ou mauvaise. Albert ne comptait plus sur la chance depuis pas mal de temps. Il arriva au centre exténué. Pour attraper son train vers Paris, et pas question de le manquer, s'il y avait un train, il devait être de retour à 21h, au plus tard. Ici, il régnait déjà une certaine effervescence, des centaines de types excités comme des puces, leurs bagages rassemblés depuis des heures, criaient, chantaient, hurlaient, se tapaient dans le dos. Les gradés, inquiets, se demandaient ce qu'ils feraient si le convoi annoncé n'arrivait pas, comme c'était le cas une fois sur trois. Albert quitta le baraquement. Sur le seuil, il regarda le ciel. La nuit serait-elle assez noire ?